Dès 5 heures à l'Angélus, la petite cloche de l'église sonnant à toute volée réveilla ces dames qui dormaient ordinairement leur matinée entière, seul repos des fatigues nocturnes. Les paysans dans le village étaient déjà debout. Les femmes du pays allaient affairées de porte en porte, causant vivement, apportant avec précaution de courtes robes de mousseline empesées comme du carton ou des cierges démesurés avec un nœud de soie frangé d'or au milieu et des découpures de cire indiquant la place de la main. Le soleil, déjà haut, rayonnait dans un ciel tout bleu qui gardait vers l'horizon une teinte un peu rosée, comme une trace affaiblie de l'aurore. Des familles de poules se promenaient devant leur maison. Et de place en place, un coq noir, au cou luisant, levait sa tête coiffée de pourpre, battait des ailes et jetait au vent son chant de cuivre que répétaient les autres coqs. Des carrioles arrivaient des communes voisines, déchargeant au seuil des portes les hautes normandes en robes sombres, aux fichus croisés sur la poitrine et retenus par un bijou d'argent séculaire. Les hommes avaient passé la blouse bleue sur la redingote neuve ou sur le vieil habit de drap vert, dont les deux basques passaient. Quand les chevaux furent à l'écurie, il y eut ainsi, tout le long de la grande route, une double ligne de guimbardes rustiques, charrettes, cabriolets, tilburys, charabancs, voitures de toute forme et de tout âge, penchées sur le nez ou bien cul par terre, les brancards au ciel. La maison du menuisier était pleine d'une activité de ruche. Ces dames en caraco et en jupon, les cheveux répandus sur le dos, des cheveux maigres et courts qu'on aurait dit ternis et rongés par l'usage, s'occupait à habiller l'enfant. La petite, debout sur une table, ne remuait pas, tandis que Madame Tellier dirigeait les mouvements de son bataillon volant. On la débarbouilla, on la peigna, on la coiffa, on la vêtit, et à l'aide d'une multitude d'épingles, on disposa les plis de la robe, on pinça la taille trop large, on organisa l'élégance de la toilette. Puis, quand ce fut terminé, on fit asseoir la patiente en lui recommandant de ne plus bouger. Et la troupe agitée des femmes courut se parer à son tour. La petite église recommençait à sonner. Son tintement frêle de cloches pauvres montait se perdre à travers le ciel comme une voix trop faible, vite noyée dans l'immensité bleue. Les communiants sortaient des portes, allaient vers le bâtiment communal qui contenait les deux écoles et la mairie, et situé tout au bout du pays, tandis que la maison de Dieu occupait l'autre bout. Les parents en tenue de fête, avec une physionomie gauche et ses mouvements inhabiles des corps toujours courbés sur le travail, suivaient leurs mioches. Les petites filles disparaissaient dans un nuage de tulle neigeux semblable à de la crème fouettée, tandis que les petits hommes, pareils à des embryons de garçons de café, la tête encollée de pommade, marchaient les jambes écartées pour ne point tacher leurs culottes noires. C'était une gloire pour une famille quand un grand nombre des parents venus de loin entouraient l'enfant. Aussi, le triomphe du menuisier fut-il complet. Le régiment Tellier, patronne en tête, suivait Constance, et le père donnant le bras à sa sœur, la mère marchant à côté de Raphaël, Fernande avec Rosa et les deux pompes ensemble, la troupe s'est déployée majestueusement comme un état-major en grand uniforme. L'effet dans le village fut foudroyant. À l'école, les filles se rangèrent sous la cornette de la bonne sœur, les garçons sous le chapeau d'instituteur, un bel homme qui représentait, et l'on partit en attaquant un cantique. Les enfants mâles en tête allongeaient leurs deux files entre les deux rangs de voitures dételées, les filles suivaient dans le même ordre et tous les habitants, ayant cédé le pas aux dames de la ville par considération, elles arrivaient immédiatement après les petites, prolongeant encore la double ligne de la procession, trois à gauche et trois à droite, avec leurs toilettes éclatantes comme un bouquet de feux d'artifice. Leur entrée dans l'église affola la population. On se pressait, on se retournait, on se poussait pour les voir. Et des dévotes parlaient presque haut, stupéfaites par le spectacle de ces dames plus chamarrées que les chasubles des chantres. Le maire offrit son banc, le premier banc à droite auprès du chœur, et Madame Tellier prit place avec sa belle-sœur, Fernande et Raphaël. Rosa Larosse et les deux pompes occupèrent le second banc en compagnie du menuisier. Le chœur de l'église était plein d'enfants à genoux, filles d'un côté, garçons de l'autre, et les longs cierges qu'ils tenaient en main semblaient des lances inclinées en tous sens. Devant le lutrin, trois hommes debout chantaient d'une voix pleine. Ils prolongeaient indéfiniment les syllabes du latin sonore, éternisant les « Amen » avec des « Ah » indéfinis que le serpent soutenait de sa note monotone, poussée sans fin, mugie par l'instrument de cuivre à large gueule. La voix pointue d'un enfant donnait la réplique, et de temps en temps, un prêtre assis dans une stalle et coiffé d'une barrette carrée se levait, bredouillait quelque chose et s'asseyait de nouveau, tandis que les trois chantres repartaient, l'œil fixé sur le gros livre de plein chant ouvert devant eux et porté par les ailes déployées d'un aigle de bois monté sur pivot. Puis, un silence se fit. Toute l'assistance d'un seul mouvement se mit à genoux. Et l'officiant parut vieux, vénérable, avec des cheveux blancs, inclinés sur le calice qu'il portait de sa main gauche. Devant lui marchaient les deux servants en robe rouge, et derrière apparut une foule de chantres à gros souliers qui s'alignèrent des deux côtés du chœur. Une petite clochette tinta au milieu du grand silence. L'office divin commençait. Le prêtre circulait lentement devant le tabernacle d'or, faisait des génuflexions, psalmodiait de sa voix cassée, chevrotante de vieillesse, des prières préparatoires. Aussitôt qu'il s'était tu, tous les chantres et le serpent éclataient d'un seul coup. Et des hommes aussi chantaient dans l'église, d'une voix moins forte, plus humble, comme doivent chanter les assistants. Soudain, le Kyrieleison jaillit vers le ciel, poussé par toutes les poitrines et tous les cœurs. Des grains de poussière et des fragments de bois vermoulu tombèrent même de la voûte ancienne, secouée par cette explosion de cris. Le soleil qui frappait sur les ardoises du toit faisait une fournaise de la petite église. Et une grande émotion, une attente anxieuse, les approches de l'ineffable mystère étreignaient le cœur des enfants, serraient la gorge de leur mère. Le prêtre, qui s'était assis quelque temps, remonta vers l'autel. Et tête nue couverte de ses cheveux d'argent, avec des gestes tremblants, il approchait de l'acte surnaturel. Il se tourna vers les fidèles et les mains tendues vers eux prononça « Orate fratres, priez mes frères ». Ils priaient tous. Le vieux curé balbutiait maintenant, tout bas, les paroles mystérieuses et suprêmes. La clochette tintait coup sur coup. La foule prosternée appelait Dieu. Les enfants défaillaient d'une anxiété démesurée. C'est alors que Rosa, le front dans ses mains, se rappela tout à coup sa mère, l'église de son village, sa première communion. Elle se crut revenue à ce jour-là quand elle était si petite, toute noyée en sa robe blanche, et elle se mit à pleurer. Elle pleura doucement d'abord. Les larmes lentes sortaient de ses paupières. Puis avec ses souvenirs, son émotion grandit et le cou gonflé, la poitrine battante, elle sanglota. Elle avait tiré son mouchoir, s'essuyait les yeux, se tamponnait le nez et la bouche pour ne point crier. Ce fut en vain. Une espèce de râle sortit de sa gorge et deux autres soupirs profonds, déchirants, lui répondirent. Car ses deux voisines abattues près d'elle, Louise et Flora, étreintes des mêmes souvenances lointaines, gémissaient aussi avec des torrents de larmes. Mais comme les larmes sont contagieuses, Madame, à son tour, sentit bientôt ses paupières humides, et se tournant vers sa belle-sœur, elle vit que tout son banc pleurait aussi. Le prêtre engendrait le corps de Dieu. Les enfants n'avaient plus de pensée, jetés sur les dalles par une espèce de peur dévote. Et dans l'église, de place en place, une femme, une mère, une sœur, saisie par l'étrange sympathie des émotions poignantes, bouleversée aussi par ces belles lames à genoux que secouaient des frissons et des hoquets, trempait son mouchoir d'indienne à carreaux et de la main gauche pressait violemment son cœur bondissant. Comme la flamèche qui jette le feu à travers un champ mûr, les larmes de Rosa et de ses compagnes gagnèrent en un instant toute la foule. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gants, blouses neuves, tous bientôt sanglotèrent. Et sur leur tête semblait planer quelque chose de surhumain, une âme épandue, le souffle prodigieux d'un être invisible et tout-puissant. Alors, dans le cœur de l'église, un petit coup sec retentit. la bonne sœur, en frappant sur son livre, donnait le signal de la communion. Et les enfants, grelottant d'une fièvre divine, s'approchèrent de la table sainte. Toute une file s'agenouillait. Le vieux curé, tenant en main le ciboire d'argent doré, passait devant eux, leur offrant entre deux doigts l'hostie sacrée, le corps du Christ, la rédemption du monde. Ils ouvraient la bouche avec des spasmes, des grimaces nerveuses, les yeux fermés, la face toute pâle, et la longue nappe étendue sous leur menton frémissait comme de l'eau qui coule. Soudain, dans l'église, une sorte de folie courut, une rumeur de foule en délire, une tempête de sanglots avec des cris étouffés. Cela passa comme ces coups de vent qui courbent les forêts. Et le prêtre restait debout, immobile, une hostie à la main, paralysé par l'émotion, se disant « c'est Dieu qui est parmi nous, qui manifeste sa présence, qui descend à ma voix sur son peuple agenouillé. » Et il balbutiait des prières affolées, sans trouver les mots, des prières de l'âme, dans un élan furieux vers le ciel. Il acheva de donner la communion avec une telle surexcitation de foi que ses jambes défaillaient sous lui. Et quand lui-même eut bu le sang de son Seigneur, il s'abîma dans un acte de remerciement, éperdu. Derrière lui, le peuple peu à peu se calmait. Les chantres, relevés dans la dignité du surplis blanc, repartaient d'une voix moins sûre, encore mouillée, et le serpent aussi semblait enroué, comme si l'instrument lui-même eût pleuré. Alors le prêtre, levant les mains, leur fit signe de se taire, et passant entre les deux haies de communion perdues en des extases de bonheur, il s'approcha jusqu'à la grille du chœur. L'assemblée s'était assise au milieu d'un bruit de chaises, et tout le monde, à présent, se mouchait avec force. Dès qu'on aperçut le curé, on fit silence, et il commença à parler d'un ton très bas, hésitant, voilé. « Mes chers frères, mes chères sœurs, mes enfants, je vous remercie du fond du cœur. Vous venez de me donner la plus grande joie de ma vie. J'ai senti Dieu qui descendait sur nous à mon appel. Il est venu, il était là, présent, qui emplissait vos âmes, faisait déborder vos yeux. Je suis le plus vieux prêtre du diocèse. J'en suis aussi aujourd'hui le plus heureux. Un miracle s'est fait parmi nous, un vrai, un grand, un sublime miracle. Pendant que Jésus-Christ pénétrait pour la première fois dans le corps de ses petits, le Saint-Esprit, l'oiseau céleste, le souffle de Dieu s'est abattu sur vous, s'est emparé de vous, vous a saisi, courbé comme des roseaux sous la brise. » Puis, d'une voix plus claire, se tournant vers les deux bancs où se trouvaient les invités du menuisier, « Merci surtout à vous, mes chères sœurs, qui êtes venues de si loin et dont la présence parmi nous, dont la foi visible, dont la piété si vive, ont été pour tous un salutaire exemple. Vous êtes l'édification de ma paroisse. Votre émotion a échauffé les cœurs. Sans vous, peut-être, ce grand jour n'aurait pas eu ce caractère vraiment divin. Il suffit parfois d'une seule brebis d'élite pour décider le Seigneur à descendre sur le troupeau. » La voix lui manquait. Il ajouta « C'est la grâce que je vous souhaite. Ainsi soit-il. » Et il remonta vers l'autel pour terminer l'office. Maintenant, on avait hâte de partir. Les enfants eux-mêmes s'agitaient là d'une si longue tension d'esprit. Ils avaient faim d'ailleurs, et les parents peu à peu s'en allaient sans attendre le dernier évangile pour terminer les apprêts du repas. Ce fut une cohue à la sortie, une cohue bruyante, un charivari de voix criardes où chantait l'accent normand. La population formait deux haies, et lorsque parurent les enfants, chaque famille se précipita sur le sien. Constance se trouva saisie, entourée, embrassée par toute la maisonnée de femmes. Rosa surtout ne se lassait pas de l'étreindre. Enfin, elle lui prit une main, Madame Tellier s'empara de l'autre, Raphaël et Fernande relevèrent sa longue jupe de mousseline pour qu'elle ne traînât point dans la poussière, Louise et Flora fermaient la marche avec Madame Rivet. et l'enfant recueillie, toute pénétrée par le Dieu qu'elle portait en elle, se mit en route au milieu de cette escorte d'honneur. Le festin était servi dans l'atelier sur de longues planches portées par des traverses. La porte ouverte donnant sur la rue laissait entrer toute la joie du village. On se régalait partout. Par chaque fenêtre, on apercevait des tablés de monde endimanchés et des crés sortaient des maisons en goguettes. Les paysans en bras de chemise buvaient du cidre pur à plein verre et au milieu de chaque compagnie, on apercevait deux enfants, ici deux filles, là deux garçons dînant dans l'une des deux familles. Quelquefois, sous la lourde chaleur de midi, un char à banc traversait le pays au trot sautillant d'un vieux bidet et l'homme en blouse qui conduisait jetait un regard d'envie sur toute cette ripaille étalée. Dans la demeure du menuisier, la gaieté gardait un certain air de réserve, un reste de l'émotion du matin. Rivet seul était en train et buvait outre mesure. Madame Tellier regardait l'heure à tout moment car pour ne point chômer deux jours de suite, on devait reprendre le train de 3h55 qui les mettrait à Fécamp vers le soir. Le menuisier faisait tous ses efforts pour détourner l'attention et garder son monde jusqu'au lendemain. Mais madame ne se laissait point distraire et elle ne plaisantait jamais quand il s'agissait des affaires. Aussitôt que le café fut pris, elle ordonna à ses pensionnaires de se préparer bien vite, puis se tournant vers son frère, « Toi, tu vas atteler tout de suite !» Et elle-même alla terminer ses derniers préparatifs. Quand elle redescendit, sa belle-sœur l'attendait pour lui parler de la petite. Et une longue conversation eut lieu où rien ne fut résolu. La paysanne finassée, faussement attendrie, et Madame Tellier, qui tenait l'enfant sur ses genoux, ne s'engageait à rien, promettait vaguement. On s'occuperait d'elle, on avait du temps, on se reverrait d'ailleurs. Cependant, la voiture n'arrivait point et les femmes ne descendaient pas. On entendait même en haut de grands rires, des bousculades, des poussées de cris, des battements de mains. Alors, tandis que l'épouse du menuisier se rendait à l'écurie pour voir si l'équipage était prêt, madame à la fin monta. Rivet, très pochard et à moitié dévêtu, essayait mais en vain de violenter Rosa qui défaillait de rire. Les deux pompes le retenaient par les bras et tentaient de le calmer, choqués de cette scène après la cérémonie du matin. Mais Raphaël et Fernande l'excitaient, tordus de gaieté, se tenant les côtés, et elle jetait des cris aigus à chacun des efforts inutiles de l'ivrogne. L'homme furieux, la face rouge, tout débraillé, secouant des efforts violents les deux femmes cramponnées à lui, tirait de toutes ses forces sur la jupe de Rosa en bredouillant « Salope, tu ne veux pas !» Mais madame, indignée, s'élança, saisit son frère par les épaules et le jeta dehors si violemment qu'il alla frapper contre le mur. Une minute plus tard, on l'entendait dans la cour qui se pompait de l'eau sur la tête et quand il reparut dans sa carriole, il était déjà tout apaisé. On se remit en route comme la veille et le petit cheval blanc repartit de son allure vive et dansante. Sous le soleil ardent, la joie assoupie pendant le repas se dégageait. Les filles s'amusaient maintenant des chaos de la guimbarde, poussaient même les chaises des voisines, éclataient de rire à tout instant, mises en train d'ailleurs par les vaines tentatives de Rivet. Une lumière folle emplissait les champs, une lumière miroitant aux yeux, et les roues soulevaient deux sillons de poussière qui voltigeaient longtemps derrière la voiture sur la grande route. Tout à coup, Fernande, qui aimait la musique, supplia Rosa de chanter, et celle-ci entama gaillardement le gros curé de Meudon. Mais madame, tout de suite, la fit taire, trouvant cette chanson peu convenable en ce jour. Elle ajouta « Chante-nous plutôt quelque chose de Béranger. » Alors Rosa, après avoir hésité quelques secondes, fixa son choix et de sa voix usée commença la grand-mère. « Ma grand-mère, un soir à sa fête, du vin pur ayant bu deux doigts, nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'eus autrefois. » Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Et le cœur des filles que madame elle-même conduisait reprit. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Ça s'est tapé, déclara Rivet allumé par la cadence et Rosa aussitôt continua. Quoi, maman, vous n'étiez pas sage? Non, vraiment, et de mes appas, seul à 15 ans j'ai appris l'usage, car la nuit je ne dormais pas. Tous ensemble hurlèrent le refrain, et Rivet tapait du pied sur son brancard. battait la mesure avec les rênes sur le dos du bidet blanc qui, comme s'il eût été lui-même enlevé par l'entrain du rythme, prit le galop, un galop de tempête, précipitant ses dames en tas les unes sur les autres dans le fond de la voiture. Elles se relevèrent en riant comme des folles, et la chanson continua, braillée à tue-tête à travers la campagne, sous le soleil brûlant, au milieu des récoltes mûrissantes, au train enragé du petit cheval qui s'emballait maintenant à tous les retours du refrain et piquait chaque fois ses 100 mètres de galop à la grande joie des voyageurs. De place en place, quelques casseurs de cailloux se redressaient et regardaient à travers son loup de fil de fer cette carriole enragée et hurlante emportée dans la poussière. Quand on descendit devant la gare, le menuisier s'attendrit. « C'est dommage que vous partiez. On aurait bien rigolé. » Madame lui répondit sensément, « Toute chose a son temps. On ne peut pas s'amuser toujours. » Alors une idée illumina l'esprit de Rivet. « Tiens, dit-il, j'irai vous voir à Fécamp le mois prochain. » Et il regarda Rosa d'un air rusé avec un œil brillant et polissant. « Allons, conclut madame, il faut être sage. Tu viendras si tu veux, mais tu ne feras point de bêtises. » Il ne répondit pas, et comme on entendait siffler le train, il se mit immédiatement à embrasser tout le monde. Quand ce fut au tour de Rosa, il s'acharna à trouver sa bouche que celle-ci, riant derrière ses lèvres fermées, lui dérobait chaque fois par un rapide mouvement de côté. Il la tenait en ses bras, mais il n'en pouvait venir à bout, gêné par son grand fouet qu'il avait gardé à sa main, et que dans ses efforts, il agitait désespérément derrière le dos de la fille. « Les voyageurs pour Rouen, en voiture !» cria l'employé. Elles montèrent. Un mince coup de sifflet partit, répété tout de suite par le sifflement puissant de la machine qui cracha bruyamment son premier jet de vapeur pendant que les roues commençaient à tourner un peu avec un effort visible. Rivet, quittant l'intérieur de la gare, courut à la barrière pour voir encore une fois Rosa. Et comme le wagon plein de cette marchandise humaine passait devant lui, il se mit à faire claquer son fouet en sautant et chantant de toutes ses forces. « Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu !» Puis il regarda s'éloigner un mouchoir blanc qu'on agitait.